intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire ce qu'on dit.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer,
ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bienvenue dans cette nouvelle émission du Canu Info du jeudi. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2025. Je suis Delphine et je suis accompagnée de Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc nous allons parler ce soir de Monsieur Bayrou et de son non-amour de l'écologie, si j'ai bien tout compris. Nous parlerons reclassement ce soir. Le reclassement de Didier Raoult et le reclassement de Monsieur Castaner. Comme quoi, dans la vie... quand on veut du boulot, il suffit de traverser la rue. On parlera d'eau aussi, d'eau polluée particulièrement. Nous irons du côté des ultramarins et nous parlerons du groupe Ayo et de la plainte, du dépôt de plainte qui a été donc déposée, évidemment. Nous parlerons de textile, de cotonnade avec Laurent. Et puis après, nous ferons un petit peu d'international pour terminer cette émission. Mais tout de suite, Monsieur Bayrou, mais qu'est-ce qu'il a donc fait?
Oui, non, mais je voulais revenir sur son discours hier de politique générale, puisque bon, on connaît hein, son indigence, sa haine, son mépris des thématiques écologiques, donc c'est normal que ça transparaisse dans ce discours du 14 janvier dernier, mais en tout cas il y a une nette tendance à dénigrer les agences environnementales, notamment on pense à l'Office français de la biodiversité, mais aussi l'ADEME et d'autres, donc c'est apparu dans ce discours de politique générale de François Bayrou, par exemple, je vais citer une petite phrase, il a dit « Est-il nécessaire que plus de 1000 agences, organes ou opérateurs exercent l'action publique ?» Alors c'est une question comme ça, purement rhétorique, qui revient assez régulièrement, dans, notamment portée par les politiques de droite. Mais il est allé plus loin, il a enchaîné, il a fustigé même les agences qui serait, je cite, dépourvu de contrôle démocratique réel et qui constituerait, je cite toujours, un labyrinthe dont un pays rigoureux et sérieux peut difficilement se satisfaire. Donc là, il attaque grosso modo deux choses, l'écologie et les fonctionnaires qui sont dans ces agences. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Bon, bien sûr, la cible principale, c'est l'Office français de la biodiversité. Grosso modo, il a la pression des agriculteurs pollueurs. Donc là, c'est un clin d'œil donné, montré à la FNSEA, le syndicat agricole productiviste. Bon, ça, c'est sûr. Le FNSEA avait déjà obtenu pas mal de choses du gouvernement précédent, mais bon, ils n'ont pas eu le temps de tout faire passer, notamment sur la question des armes. pourquoi des armes? Ben oui, parce que les agents de l'OFB viennent maintenant armés quand ils font des contrôles sur les rivières, les fossés, les pollutions, etc. Leurs armes étant visibles, et la FNSEA a gagné que les armes ne soient plus visibles. Voilà, comme ça les autres pourront leur tirer dessus d'abord. C'est de ça dont il est question, parce qu'en fait les agents de l'Office français de la biodiversité ont eu des tentatives de meurtre, hein, notamment avec des sabotages de voitures, des incendies de bureaux, des menaces permanentes, des blocages, etc. Tout ça de la part des agriculteurs productivistes, puisque la Confédération paysanne n'attaque pas l'Office français de la biodiversité, au contraire. Donc on parle bien de la FNSEA, des jeunes agriculteurs et de la coordination rurale, le syndicat d'extrême droite. Alors, ce qui est triste, c'est d'avoir un Premier ministre qui attaque l'État, c'est-à-dire lui-même, ce qu'il est censé représenter. Alors, c'est pas nouveau, au Sénat, hein, on a les LR qui sont majoritaires, les Républicains, ils travaillent en ce moment une proposition de loi à réduire les pouvoirs de l'Office français de la biodiversité. Hein, ils voudraient carrément que ça serve plus à rien. Donc voilà. Alors, pour le Premier ministre, c'est difficile de feindre qu'il y a un problème de transition écologique, mais Barrou y arrive quand même. Donc il est allé plus loin, et il a même dit qu'il voulait supprimer l'ADEME. Alors, supprimer l'ADEME, c'est un truc qui traîne aussi depuis un moment à droite. Alors, ça a quand même fait réagir Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la transition écologique, puisqu'il y en a encore une, il paraît, on ne sait pas à quoi elle sert, mais elle est là. Elle a dit, bah non, il fallait pas faire ça quand même, tout ça. Donc voilà, elle est un peu montée au créneau, mais ça cache mal, grosso modo, tout ce qui est en train de se passer contre l'écologie et contre la fonction publique. Donc cette fonction publique, on rappelle que l'ADEME, elle met en œuvre des politiques dont le but est qu'on puisse respirer un air à peu près respirable, etc. L'Office français de la biodiversité essaye de mettre en œuvre des politiques pour qu'on arrête de boire de l'eau polluée, qu'on attrape des cancers à tour de bras, des choses comme ça. Donc, c'est, grosso modo, ces fonctionnaires, ils sont là pour améliorer notre santé, faire qu'on tombe pas malade et faire que la nature se dégrade pas non plus et qu'on tombe pas malade indirectement après. Parce que c'est de ça dont il est question. Donc, il est super choquant d'avoir un Premier ministre qui dénonce soi-disant ces agences-là. Alors, il va plus loin quand il dit qu'il y aurait un manque de contrôle démocratique des agences. Là, c'est de la désinformation totale. Hein, on sent qu'il est inspiré par Trump, hein, en ce moment, le père Bayrou, parce que, en fait, ces agences, elles sont décidées par l'État, donc le gouvernement. Elles mettent en œuvre des politiques décidées démocratiquement par le Parlement. Et en plus, au sein de ces agences, notamment les agences de l'eau, il y a une grosse participation démocratique à l'intérieur. Il y a des parlements, des agences de l'eau, des choses qui n'existent pas ailleurs. Donc en fait, dénoncer l'absence de démocratie de ces agences qui seraient des éléments, on a l'impression, incontrôlés, d'extrême gauche au sein de l'État, c'est mentir. Alors, il n'est pas un mensonge près, le père Bayrou, mais voilà. Donc, on sent bien qu'il y a une offensive contre les fonctionnaires et contre l'environnement. Alors ça, là, j'ai parlé de l'OFB, de l'Office français de la biodiversité et de l'ADEME, mais il y a aussi pas mal d'attaques et de violences que subissent en ce moment la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il y a l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, dont les chercheurs ou les fonctionnaires subissent aussi des pressions, des attaques, etc. Là, on aurait pu espérer que, en tant que Premier ministre, il défende les fonctionnaires qui sont attaqués par soit par des militants anti-protection de l'environnement, soit par tous ces réactionnaires néolibéraux qui mettent en œuvre ce genre de politique. Et là, Bayrou n'était pas là, donc on sent bien qu'il est parti sur cette voie de la réaction néolibérale qu'on a, qui grimpe de partout, hein, qui va arriver au Canada, qui est déjà aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, finalement, il est dans la ligne des systèmes de droite actuels.
Oui, vous aurez remarqué que nous n'avons pas ouvert sur cette position du Parti Socialiste aujourd'hui, qui a décidé donc de ne pas voter cette censure déposée par leurs ex-camarades du Nouveau Front Populaire. Alors le Nouveau Front Populaire qui est en pleine émotion. Les militants de gauche sont tout émus et parlent de trahison pour les hommes et les femmes d'extrême gauche et anarchistes de ce pays. Bon, on s'y attendait un peu. On n'a pas grand-chose à attendre d'une social-démocratie, même si à un moment, on a cru que ce Parti Socialiste pouvait peut-être revenir à certaines racines un peu plus à gauche et un peu plus historiques. Bon, c'est pas tellement surprenant. Bon, en tout cas, M. Bayrou, du coup, il est content quand même aujourd'hui. Il a réussi à faire un truc, à pas trop s'allier avec le Rassemblement National.
Pas faire semblant de pas trop s'allier avec.
Tout en essayant de faire semblant de s'approcher du Parti Socialiste, qui s'est fait un peu avoir quand même hein, dans toute cette histoire. Rappelons qu'aujourd'hui, quand même, nous avons en avant médiatiquement et politiquement des partis qui n'ont rien fait dans les urnes, hein, c'est-à-dire le Parti Socialiste qui s'est quand même vautré sur toutes les dernières élections, et les Républicains comme le MoDem qui sont des partis absolument inexistants sur le plan électoral aujourd'hui, mais qui ont évidemment pour ces partis une histoire, qui font qu'on les place toujours comme étant absolument essentiels à notre démocratie parlementaire. Alors je vous parle même pas de notre démocratie tout court. En tout cas, bon, il y en a dans nos politiques français qui savent se recaser. Je dis ça pour M. Bayrou, au cas où demain
il peut aller à la retraite aussi. Hein.
Qui peut aller, oui, mais tu sais, chez ces politiques, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il y en a des plus jeunes qui, on le sait, en particulier pour des ministres qui étaient du côté de l'écologie, c'est plus difficile de se recaser dans le privé sur certaines fonctions. Mais en général, au Parti Socialiste d'ailleurs, et à droite, c'est un peu plus facile. Et là, donc, on a beaucoup parlé ces derniers jours de M. Castaner et de sa nouvelle nomination. Alors c'est une nomination en fait qui date de décembre, mais qui fait causer ces derniers jours, en particulier auprès de la Fédération du prêt-à-porter féminin, par exemple. Alors c'est un machin qui s'appelle, hein, je vous dis, le FFPAPF. Voilà, si vous voyez écrit ça, ça veut donc dire la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, parce qu'on aime bien mettre des petites lettres en France, voilà. C'est mieux quand même quand ça fait paf, vous voyez, bah là ça fait paf paf. Donc on a appris qu'en décembre 2024, Christophe Castaner a trouvé un nouvel emploi auprès de cette multinationale Chaîne. S'il vous plaît, arrêtez de dire chez Chaîne, arrêtez de dire chez Auchan, chez Carrefour, parce que dans la presse maintenant, on est chez quelque chose, simplement c'est pas chez quelqu'un, mais on voit même dans des articles très sérieux cette manière d'écrire. Donc chez Chaîne, c'est pas quelqu'un, c'est une multinationale, donc c'est la multinationale Chaîne, de son nom, qui est effectivement une fondation chinoise, mais dont le siège social est à Singapour. C'est pas un cas unique, hein. Si vous regardez un petit peu sur Alibaba, AliExpress, vous verrez que le siège social est aussi à Singapour. Et si vous achetez des choses auprès de la plateforme Amazon et que vous allez regarder un petit peu qui sont les vendeurs, et vous verrez que c'est pas mal aussi au niveau de Singapour que ça se passe. Hein. Tout ça s'explique aussi par quelques avantages fiscaux. Et plus de liberté qu'en Chine, hein, aussi. En tout cas, on a donc cette multinationale qui est pas une plateforme, hein, c'est un site et c'est un marchand de textiles qui se diversifie un petit peu avec des accessoires maintenant, qui a donc décidé d'embaucher un certain nombre de personnalités internationales, et donc ça tombe sur des personnalités de chez nous. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Castaner, hein, il va faire un chouette boulot qui, bon, pour moi, on ne sait pas bien à quoi ça sert, puisque il va rejoindre un groupe de conseil régional. Hein, c'est-à-dire, quand je dis le groupe, c'est pas un groupe d'entreprise, c'est un groupe, puisqu'il n'est pas le seul, où il va pouvoir causer de responsabilités sociales et environnementales. Bon, on voit pas bien en quoi M. Castaner est extrêmement expert, hein, j'ai été rechercher un petit peu en responsabilité sociale et environnementale, mais peut-être que son expertise de ministre, sur lequel il n'est pas resté bien longtemps, hein, quand même, puisque je rappelle qu'il a mis fin à sa carrière politique suite à son échec au législatif de 2022. Il a donc décidé de faire sa carrière maintenant dans le privé. Il a rejoint Nicole Gage, hein, qui alors elle avait été secrétaire d'État encore plus rapide. Tout le monde l'a même oublié, c'est pour vous dire un petit peu, elle ressort donc dans cette actualité. Donc on se retrouve avec des personnalités qui rejoignent donc le privé et une multinationale du textile fondée en Chine avec un siège social à Singapour. On peut dire déjà, c'est un montage, ma foi, très intéressant. C'est une nomination évidemment qui fait réagir. comme je vous le disais, d'abord évidemment le secteur textile français, puisque il avait tenu des propos aussi, Monsieur Castaner, où il fallait défendre le Made in France quand il était dans son ministère. Mais comme quoi, encore une fois, hein, nos ministres, blablabla.
C'est que des mensonges. Et puis, quand il faut mettre en pratique, on va chercher des euros chez la multinationale chinoise de la fast fashion, quoi.
Oui, puisque c'est effectivement là rejoindre une entreprise qui est quand même controversée. Attaqué pour tout un tas de raisons. Alors d'abord, évidemment, le secteur du textile français attaque pour concurrence déloyale. Bon, ça c'est un peu quand même ambigu, hein, parce qu'il faudrait attaquer finalement toute entreprise qui produit au Vietnam, au Bangladesh, à Bakou, fait transporter ça par container et vient déverser son textile pas cher, produit dans des conditions assez désastreuses à l'autre bout du monde. Hein. Donc la concurrence déloyale, elle touche un petit peu tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une manière de faire de cette multinationale qui est particulière, c'est-à-dire du vêtement jetable, bas de gamme, pas cher, donc on peut en changer tout le temps. C'est là où aussi Shein est accusé de participer à une consommation excessive, c'est-à-dire nous invitant à finalement changer tout le temps de fringues, déjà parce que c'est pas cher, donc on peut y aller tout le temps, et puis parce que ben c'est du vêtement qui quand même tient assez peu la route dans le long terme. Il y a eu des enquêtes, hein. Au bout de quelques lavages, pouf, le machin était tout déformé, ça avait raccourci. Vous pouviez le donner du coup, votre t-shirt, vous madame, à votre fille, hein, qui d'un seul coup pouvait le mettre, ça lui allait très très bien, et en plus, il était devenu un peu plus transparent, vous voyez, côté un peu sexy pour vos enfants, c'est vachement classe. En tout cas, donc on a ces politiques qui rejoignent, et alors c'est quoi le but de ces politiques, et c'est quoi le but de Shein? Alors le but des politiques, peut-être le pognon, je sais pas. Non. La presse s'interroge, pourquoi rejoindre une multinationale chinoise de la fast fashion? Ben, je sais pas, moi, première raison, peut-être, le pognon. Mais, paraît-il que je me trompe. Mais je sais pas, vous en pensez quoi, vous, hein? En tout cas, pour M. Castaner, il y a des réponses, hein, parce qu'il s'est énervé, donc il a donné une interview à la Tribune de dimanche, ce 12 janvier dernier, où il dit que ce sont des déclarations démagogiques et mensongères quand on l'accuse finalement d'y aller pour le pognon.
Hein. Donc il y va, c'est pour l'idéologie, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec la fast fashion.
Non, mais il dit que ça aussi, c'est une fausse accusation, qu'en fait, que Shein a connu, je le cite, une croissance rapide. Elle a compris qu'il lui incombait, en tant qu'acteur important, de prendre des initiatives vertueuses. Parce qu'il est aussi accusé pour une chose, c'est d'avoir un carnet d'adresses. C'est pas pour le pognon que...
Non, mais là, voilà. Ils achètent une image. Ils disent, regardez, on fait venir Castaner, il défend des trucs bien, donc s'il vient chez nous, c'est qu'on est bien. En fait, ça va pas plus loin que ça. Le mec, il s'est fait acheter, c'est tout.
Donc sa priorité de 2021 sur le Made in France et la souveraineté, tout ça.
Il s'est foutu de notre gueule, non?
Oui, il s'est bien assis dessus, hein, surtout. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il tape aussi sur cette loi contre la fast fashion, hein, qui avait été votée en mars 2024 à l'Assemblée sous l'initiative d'Anne-Cécile Voillant, députée Horizon. Là, il va y avoir un retour, si j'ai bien compris,
ouais, parce qu'elle
est
passée au Sénat, ouais.
Ouais, voilà. Va revenir, ouais. Et ben, il tape dessus.
Ah bah oui, parce que justement, en fait, s'ils prennent des gens comme ça à ce moment-là, tout le monde imagine bien, même si eux disent le contraire, que c'est parce qu'il y a cette loi, qu'elle n'est pas encore définitivement adoptée, qu'elle va entraver leur business. Donc bon, bah, il faut trouver quelqu'un qui arrive à limiter les dégâts, et c'est pour ça qu'ils payent ces deux personnes.
Il dit... Nous sommes en train de créer une TVA sur des produits jugés trop populaires. Il y a un effet moralisateur dans tout cela qui m'exaspère. Ah, le pauvre. Parce que ça aussi, c'est une excuse. Shein, c'est les pauvres, c'est bien, ils peuvent s'habiller. Bon, le pauvre, ce qu'il a besoin, c'est d'un truc pas trop cher qui va durer longtemps, surtout. Hein, pas besoin d'aller dépenser sa thune tous les samedis après-midi.
Parce qu'en fait, sur le moyen terme, c'est pas rentable. Ça coûte beaucoup d'argent puisque les produits tiennent pas. Donc il y a des compromis à faire et c'est certainement pas là où il y a les meilleurs rapports qualité-prix d'un truc qui pourrait tenir la route. Donc les pauvres, ils se font avoir s'ils vont là-bas.
Hein. Et puis surtout, bon, arrêtons ce populisme en utilisant les pauvres, hein, merci, et les précaires. Selon donc Monsieur Christophe Castaner, c'est Shein qui démocratise la mode pour tous. Évidemment, du côté du secteur du prêt-à-porter français, on s'étrangle un peu avec cette démocratisation pour tous, hein, comme si c'était évidemment vrai. Et puis en plus, on prend ça un peu comme c'est une provocation, vous voyez aussi. En tout cas, pour Shein, on dit que c'est pas vrai. Il n'y a pas de lien entre la nomination donc de ces deux politiques français ou ex-politiques français et le prochain examen de la loi nommée un peu facilement anti-fast fashion. Hein, c'est pas vrai. Il n'y a pas du lobbying de M. Castaner derrière, il n'y a pas le fait qu'il va pouvoir causer à des anciens amis, ou en tout cas à son joli carnet d'adresses, tout ça n'est que pure coïncidence. Alors en plus, il s'est vexé, M. Castaner, hein, parce que dans cette article à la Tribune dimanche, il explique que les gens pensent que je suis assez idiot pour n'avoir comme capacité que celle d'avoir un carnet d'adresses. Non, moi je pense que tu veux du pognon aussi.
Ouais. Hein, parce que là, je veux dire, c'est pas un spécialiste de la mode. Il peut pas nous faire croire qu'il est compétent pour être dans ce domaine-là. Enfin, je veux dire, on peut regarder ce qu'il a fait les années précédentes en termes de travail. Ça correspond pas à ce qu'il va faire là-bas. Donc, qu'il nous invente pas quelque chose. Hein, je veux dire, un boulanger qui embauche quelqu'un, c'est pour être boulanger. Donc là, s'il l'embauche et qu'il n'est pas spécialiste de la mode, bah, c'est qu'il doit bien avoir un intérêt quelque part ailleurs. Et c'est bien parce que il est connu, son image et son carnet d'adresse.
Alors, je continue à le citer. Hein. Il dit. Nous sommes dans un paradoxe. Auparavant, il existait une TVA sur les produits de luxe. Là, nous sommes en train d'inventer une TVA sur des produits jets trop populaires. Il y a un effet moralisateur dans tout cela qui m'exaspère, dit-il. Il essaye de se défendre tout ça. On rappelle aussi qu'il est déjà au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille et des sociétés des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. Donc, il a quelques activités. Alors, il se défend en rappelant qu'il est parfois bénévole sur ses activités. Mais encore une fois, ces gens qui se placent dans des conseils de surveillance bénévolement, c'est pas non plus pour rien. Hein, c'est qu'on entretient son réseau, bien évidemment. Bon, en tout cas, Shen, c'est quand même aussi une multinationale qui est donc attaquée, je vous le disais, donc sur son impact environnemental, sur le fait qu'on n'est pas vraiment sur un modèle de décroissance en termes d'achat et de multiplication de nos produits textiles dans nos placards. On parle aussi, évidemment, de violation des droits humains. En 2021, c'est Public Eye, une ONG, qui avait révélé, raconté que des salariés dans un entrepôt à Foshan travaillaient 12 heures, parfois 18 heures par jour, un truc de dingue, n'avaient pas de congé, pouvaient travailler 28 jours par d'affilée, par exemple, avec des salaires qui pouvaient être amputés quand il y avait des erreurs qui étaient reprochées aux travailleurs et aux travailleuses. Bon, on se doute bien en même temps, hein, si c'est pas cher, il y a bien une raison. C'est pas juste parce que votre t-shirt, il fait 3 grammes, hein, parce qu'il n'y a pas de coton dedans. Mais il y a aussi d'autres impacts. Il y a des tests qui ont été menés sur les textiles et on a trouvé dedans des produits toxiques dans ces vêtements, des produits cancérogènes et mutagènes. Et j'ai lu dans ces produits. Donc, on y trouve des phtalates, du cadmium, du barium, de l'arsenic, du mercure et du plomb, c'est pas chouette, hein, je vais dire. Donc là, ça rajoutait une couche, et puis la petite couche aussi, hein, quand même, c'est que Shen est accusé de collecter beaucoup de données personnelles avec son application mobile et que nos données elles sont pas bien utilisées, mais je veux dire pire qu'ailleurs. Hein, voyez ailleurs, ben vous mettez la barre 4 fois plus haut et que donc il y a des algorithmes qui seraient extrêmement importants et qu'en plus de ça, ces algorithmes nous pousseraient à consommer encore davantage. Il y a vraiment un truc commercial très très fort qui a été mis en place par cette multinationale du textile. En tout cas, voilà comme quoi on peut se replacer. Et puis un autre qui a réussi à se replacer quand même, hein. Bah ouais, on l'avait un peu oublié, c'est Didier, hein.
Ouais, le champion du monde de l'escroquerie scientifique, là.
Didier Haute, qui a trouvé une nouvelle activité, alors il s'est associé. Je vous rappelle, hein, Didier Haute, dont on a beaucoup entendu pendant la période Covid, avec son hydroxychloroquine, je vais essayer de jamais oublier de petits morceaux de ce mot, hein, qui aujourd'hui, hein, on sait que...
Ça sert à rien.
Ça sert à rien, mais c'est surtout la manière dont il a utilisé ce produit... hors des processus scientifiques et médicaux, sans autorisation, qui lui a valu, rappelons-le, quand même, une mise à pied de 2 ans. Hein. Ça commence là en février.
Ouais, pour exercer de la médecine, pas la recherche.
Non.
En fait,
mais il n'est plus chercheur.
Non, et la recherche, il s'était fait disqualifier bien avant l'affaire du Covid. Hein,
En 2021, ouais, il était professeur d'université, praticien hospitalier, comme on dit, et il ne l'est plus. Hein. Et non, puis c'est l'ordre des médecins qui l'a
Il avait perdu l'agrément bien avant là, du CNRS, de l'INSERM, tout ça.
Tout à fait.
Enfin, voilà, ça faisait longtemps en fait qu'il escroquait tout le monde en servant de la science comme prétexte. Et là, il va encore plus loin parce qu'il va faire, c'est quoi, de la cosmétique.
Alors, Il participe donc à une création d'entreprise qui s'appelle Magnificience. Déjà, hein, vous avez compris, il y a le mot science dedans parce que quand même c'est petit Didier. En tout cas, il est écrit, je suis allé me balader sur le site internet, pensez donc. Chaque soin est conçu pour agir en profondeur et offrir des résultats prouvés, visibles et durables. Moi, le prouver, j'aime bien dans la cosmétique déjà. Que, ouais. Alors, de la part Didier Raoult, si vous voulez.
Et puis, les cosmétiques ne peuvent pas agir en profondeur en fait parce qu'il y a une loi qui interdit à ce que ça aille en profondeur. Ça va jamais très en profondeur, les cosmétiques.
C'est écrit aussi, la science au service de la santé de la peau, parce qu'on est avec petit Didier là aussi, donc il y a la science. Nos formules basées sur des principes actifs rigoureusement testés sont validées par des recherches biomédicales menées dans des instituts d'expertise clinique indépendants autorisés par l'ANSM. Bon,
c'est... Et donc il a
Toutes les boîtes de cosmétiques sont dans Zélien.
Est-ce qu'il a recyclé son hydroxychloroquine?
Alors apparemment non, parce que je suis allée donc voir. Alors pour l'instant il y a une crème de jour et une crème de nuit à 75 balles chacune. On t'envie, il faut absolument utiliser les deux si tu veux des résultats.
Hein. Ah donc, ouais, c'est cher.
Ah c'est des petits pots, hein, ouais. Voilà. Mais bon, la cosmétique est chère hein, d'une manière générale. Quand vous regardez le prix au kilo, ça vous fait bien marrer. Ce sont donc des soins anti-âge, vous l'aurez compris, qui sont des. Il y a des actifs hautement performants pour stimuler la régénération cutanée. Protéger des agressions extérieures et ralentir les cibles visibles du vieillissement. Que du classique dans
le cosmétique. Oui, en fait, il a le même discours que tout le monde.
Exactement. Donc, celui qu'on ose encore appeler le professeur Raoult dans certains médias, hein, ça me fait marrer, s'est donc reconverti dans le produit anti-âge, comme quoi on peut avoir une seconde vie professionnelle. Ouais, hein, quand
sauf qu'on rappelle qu'il n'y connaît rien.
Alors, il sait, donc il a annoncé ça sur sa chaîne YouTube, hein, parce que petit Didier a toujours sa chaîne YouTube. Donc, Magnificience. Alors, il s'est associé à Nina Bazri pour créer cette chose. Alors, moi, je suis allée, vous savez, il y a des petits, toujours des petites lignes. Hein, sur les sites internet, c'est obligatoire en France. Donc ça m'a permis d'aller voir un petit peu certaines choses. Donc on trouve effectivement cette société Magnificience qui a été créée en septembre 2024. C'est tout récent. Mais il a déjà deux produits. C'est vachement bien. Donc le domaine d'activité, hein, c'est la fabrication de parfums et de produits pour la toilette. Tout ça, c'est domicilié à Paris. Et la présidence de cette SAS, c'est Nina Bazri, donc cette associée de Monsieur Raoult. C'est associée surtout dans le blabla, hein, quand même, voilà. Elle-même, en fait, c'est un établissement en fait d'une société qui s'appelle HBC One qui a été créée en 2007. Là aussi sous la forme d'une société par action simplifiée, qui là est pour le commerce de gros, de parfumerie, de produits de beauté. Donc vous voyez, elle a plusieurs établissements. Cette dame, qui donc là, c'est son dernier bébé en date, et lui permet donc une collaboration avec le professeur Didier Raoult, comme elle dit. Elle dit sur son annonce Instagram, sur l'annonce Instagram du compte officiel hein, de Magnificence, née d'une collaboration avec le professeur Didier Raoult, éminent chercheur de renommée mondiale, et Nina Bazri, fondatrice d'un laboratoire cosmétique innovant. Oh, c'est pas beau. Magnificence repose sur une vision commune, utiliser la science de pointe pour offrir des soins révolutionnaires à la peau.
Lui, il dit qu'ils ont fait des recherches et tout, mais ils ont monté la société en 2024. Enfin, lui.
Ah, ben je sais pas, elle avait peut-être déjà des laboratoires de recherche qui lui a permis de monter un établissement
donc, du coup,
lié
lui,
à sa première qui lui permet d'avoir une holding, tout ça. Parce que pour les SAS, vous savez, hein, économiquement, c'est pas mal. Hein, ça va pop, vous faites des petits sauts dans le. Comme ça. En tout cas, comme quoi, on peut quand même se reconvertir. Je cherche des mots pour pas qu'on soit attaqué demain par Didier Raoult, qui a l'habitude d'attaquer à peu près tous ceux et toutes celles qui disent des choses contre lui. En tout cas, comme toutes les cosmétiques, la plupart du temps, ça sert quand même à pas grand chose. On a toujours je dis tous et toutes de l'espoir, parce que les hommes s'y mettent aussi, à transformer notre peau. À la rigueur, on peut ralentir les dégâts. Hein.
Visuellement, mais pas en profondeur.
Mais il arrive sur un marché qui est quand même bien surchargé.
Ouais, mais il y a de l'argent.
Mais en tout cas, lui, il a la science avec lui.
Bah, c'est bien ça.
Allez.
Oui, on va parler d'eau contaminée. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on va prendre un cas là, qui est ressorti, mais qu'on avait déjà entendu parler depuis pas mal de temps et qu'on avait un petit peu oublié. Ça se passe dans la Sarthe. En fait, il y a plein d'affaires sont sorties sur la pollution au chlorure de vinyle monomère. On va l'appeler le CVM, chlorure de vinyle monomère. En fait, il y a plein de témoignages. Je ne vais pas rentrer dans le détail des témoignages, mais en fait, il y a des gens, il y a quinzaine d'années, voire un peu plus, qui ont découvert que leur eau était polluée au CVM. Alors en fait, ils ne l'ont pas découvert il y a 15 ans, mais ils l'ont découvert récemment, mais l'État savait. Et grosso modo, il y a eu arnaque sur l'information. Donc là, pour on va aller à Pruillé-l'Aiguillet, c'est donc un village du sud de la Sarthe. Là, ils ont des taux de CVM de 1,8 microgramme, si je me trompe pas. C'est-à-dire que c'est trois fois la limite autorisée, je crois que c'est 0,5 microgramme par litre d'eau autorisée. Alors c'est un gaz qui se forme sur les tuyaux plastiques, à cause des tuyaux plastiques, de certains tuyaux plastiques dans l'eau. Alors, moi, sur le coup, je dis, mais normalement, les tuyaux plastiques, c'est que pour l'évacuation, pas pour l'arrivée d'eau. Et en fait, dans les villes, normalement, non, mais plutôt dans les campagnes où ils ont fait peut-être des économies. Grosso modo, en zone rurale, ils ont eu des installations d'arrivée d'eau un peu pourraves, en tout cas fait avec du plastique. Et ce plastique se dégrade quand il n'est pas entièrement dans l'eau, si j'ai bien tout compris. Il y a de ce gaz qui apparaît et qui après passe dans l'eau et qui a un impact négatif sur la santé. Ça multiplie énormément le risque de deux cancers. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. Alors il y a eu pas mal d'actions, mais toutes les actions ont montré, en fait, il y a plein de détails, je vous laisserai chercher, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, puisqu'on n'aura pas assez le temps, mais ça se passe dans la Sarthe, mais ça se passe aussi dans le Loiret. On a, par exemple, Châtenois, Sury-aux-Bois et Combreux, qui ont été informés il y a un an et demi, à peu près en 2023, que leur eau du robinet était elle aussi contaminée au CVM et au manganèse en même temps, et qu'elle était donc plus consommable. Donc ils cherchent, ils se renseignent et en fait ils se rendent compte que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable avait déjà donné les infos à l'ARS, l'autorité de la santé, là, le régional de la santé, depuis 2014. Donc là les gens du Loiret, là, ils découvrent en 2023 que ça fait 9 ans que leur eau elle est impropre à la consommation et on leur a rien dit. C'est quand même pas mal. Et donc ce qui sort derrière ce scandale, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui a toutes les infos, donc les ARS notamment, et qui ne donne pas les infos. Donc là, suite notamment à l'affaire dans le Loiret, il y a un cabinet d'avocats qui s'appelle Fusis Avocats et qui représente notamment là, maître Gabriel Gien, défend un collectif du Loiret et qui ont déposé plainte en estimant qu'il y a pas mal de préjudices. Alors il y a un préjudice financier parce qu'ils ont payé pour quelque chose de potable et qu'ils n'ont pas eu d'eau potable. un préjudice moral car ils ont été informés que l'année dernière de la contamination. Des problèmes sanitaires puisqu'ils ont un risque augmenté de développer des cancers, des problèmes d'anxiété parce que maintenant que les gens sont au courant, eh ben ils stressent, donc il y en a qui vont faire des examens, etc. Donc on parle de cancer du foie, de choses comme ça, pas de choses rigolotes, hein, dans les risques augmentés. Alors il y aura une audience très bientôt, on en reparlera sûrement, c'est au tribunal d'Orléans le 13 mars prochain. Il y a 16 autres dossiers en cours d'instruction, toujours sur ce même genre d'affaires. Parce qu'en fait, cette pollution au chlorure de vinyle monomère, ça a touché la Sarthe, ça a touché, comme je viens de dire, le Loiret, mais en fait, ça a touché la Manche, la Dordogne, le Gers, l'Indre-et-Loire, les Côtes d'Armor, etc. Plein de départements français, avec toujours la même chose, c'est-à-dire les agences de santé, régionales de santé, qui ont les infos et qui n'en font rien. Alors, la question que pourra peut-être répondre la justice, c'est: mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là derrière ? Pourquoi rien n'est fait ? Alors, il y a pourtant des lois. Hein. Je les citerai pas toutes, mais il y a des lois. Il y a une directive de 98 hein, qui demande à ce qu'il y ait des mesures faites. Donc là, les mesures étaient faites, mais on n'avait pas l'information. Alors, l'idée, c'est d'obliger l'État avec ces poursuites-là, alors d'avoir des dommages, etc. Mais c'est d'obliger l'État à faire des choses, à informer les populations et à changer les tuyaux, parce qu'il faut changer les tuyaux plastiques d'arrivée d'eau, puisque c'est le problème se situe à l'arrivée d'eau. Donc voilà, il y a un vrai souci. Grosso modo, il y a un chercheur qui a fait un petit peu des études, qui a essayé de demander les infos à toutes les ARS. Il y en a 8 agences régionales de santé qui lui ont répondu. Et à partir de ça, on peut estimer, grosso modo, qu'il y aurait peut-être 600 000 personnes concernées par ces contaminations. Donc des gens qui ont bu de l'eau non potable alors qu'ils ne le savaient pas. Donc voilà, il y a pas mal de choses en jeu derrière ce scandale. C'est pas le seul scandale sur l'eau, mais celui-là, on en parle moins. Et donc voilà, c'est ressorti parce qu'il y a cette action en justice avec le passage au mois de mars. Donc on va voir ce qui va se passer si l'État est condamné, si les industriels n'ont jamais, on touchera pas aux industriels en fait, parce que l'origine c'est quand même les industriels de la plasturgie qui soit n'ont pas fait les essais, soit n'ont pas dit que c'était potentiellement dangereux, alors qu'on sait, enfin globalement quand on fait du bâtiment, normalement l'arrivée d'eau elle est pas en plastique. Donc voilà. Ce qu'il en est de cette affaire sur l'eau. Et je vais rester sur l'eau avec le retour du fils de la vengeance des PFAS, les fameux polluants éternels. J'ai déjà fait plusieurs informations là-dessus. Les perpolyfluoroalkidés, pour reprendre leur terme. Alors, ça concerne 10 000 éléments. En fait, c'est tous les éléments qui ont des atomes de carbone et de fluor, qui ont des propriétés très intéressantes pour le monde industriel. Hein, anti-tache, anti-adhésif, déperlante. Voilà, on retrouve ça dans les poils. Enfin, vous connaissez un petit peu l'affaire. Donc c'est présent dans beaucoup d'objets du quotidien, c'est souvent des substances qualifiées de presque miraculeuses par l'industrie, tellement miraculeuses qu'ils en ont mis partout et qu'on a des pollutions importantes avec des impacts importants puisque c'est des produits dangereux pour la santé et que ce sont ce qu'on appelle des polluants éternels, même si il y a plusieurs types, hein, puisque j'ai dit il y a au moins 10 000 produits concernés. En tout cas, là aussi, il y a une grosse enquête qui est sortie en fait avant-hier dans Le Monde. C'est un collectif de 46 journalistes qui ont enquêté, qui ont récupéré plein de documents et qui ont enquêté un petit peu sur cette pollution aux polluants dits éternels. Donc voilà, en Europe, il y aurait 23 000 sites pollués. On se rappelle qu'il y en a un au sud de Lyon. Hein, au sud de Lyon, les gens n'ont pas le droit de manger les œufs de leurs poules, etc. parce qu'il y a une pollution dans les sols à cause d'une usine. Alors on va en reparler des origines, puisque les PFAS, alors il y en a deux types, il y a dites à chaîne longue et à chaîne courte, c'est la taille de la molécule en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début c'était des à chaîne longue, et puis quand il y a eu les premières lois qui sont passées et qui ont visé ces produits-là, les industriels ont sorti des nouvelles molécules sur le même principe mais à chaîne courte et qui rentraient pas dans la loi. Enfin, il y a quand même un petit peu d'arnaque là-dessus, mais la question que pose l'article du Monde, c'est qu'est-ce qu'on fait et combien ça va coûter. Alors ils évaluent entre 95 et 2000 milliards d'euros sur 20 ans au niveau de l'Europe pour sortir, pour décontaminer. Parce qu'on a dit, hein, c'est des produits, des polluants éternels, c'est-à-dire que naturellement, ils ne se dégradent pas dans la nature. Ils suivent la chaîne alimentaire et puis voilà, ils restent dans la chaîne alimentaire et puis ils provoquent des dégâts un peu partout. Alors pourquoi le chiffre est aussi grand, 95 milliards à 2000 milliards? Parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si on arrête totalement de produire ces PFAS et d'en rebalancer dans la nature. Alors il y a des lois qui sont en préparation, les lobbies industriels sont très très forts au niveau de l'Europe et de la France, et pour l'instant ils arrivent à faire pression, et on ne sait pas s'il va sortir quelque chose des lois en préparation. Donc là, on est un petit peu inquiet. Et puis, il y a une autre génération de PFAS qui s'appelle les TFA. C'est l'acide trifluoroacétique qui est issu de la dégradation d'autres PFAS ou qui est issu de la dégradation de pesticides. Et on a une grosse source de pollution avec 7 autres polluants éternels. Et là, c'est l'agriculture productiviste qui est la principale source et qui contamine l'ensemble quasiment des rivières en France. Donc là aussi, il y a des gros besoins. Donc, on ne sait pas comment ils vont mettre en œuvre. Il y a quelques... pour dépolluer. En fait, il y a quelques éléments qui sont en train de se passer. Alors dans l'eau, la ville de Lyon par exemple a mis en place du filtrage en osmose inverse. En fait, on met une membrane avec des tout petits petit trou et on fait passer de l'eau sous pression. Elle est filtrée donc par cette membrane qui retient les PFAS. Après, je sais pas ce qu'ils en font. S'ils la jettent dans la mer, c'est perdu. S'ils les brûlent à très haute température, on s'en débarrasse. Très haute température, c'est-à-dire pas dans un incinérateur classique. Et c'est la problématique aussi pour s'en débarrasser. Donc Lyon a commencé à faire ça. La région parisienne aussi, le syndicat des eaux d'Île-de-France. Le truc, c'est que ça coûte quand même très très cher. Et au final, tout le monde se dit, mais pourquoi c'est l'État, c'est-à-dire les gens, les impôts, qui payent cette dépollution et pas les industriels? Alors l'idée qui est très bien du principe du pollueur-payeur est très compliquée. Par exemple, au sud de Lyon, on connaît une des usines qui a pas mal contaminé les sols au nord de la vallée de la chimie, là, au sud de Lyon. Mais à d'autres endroits, c'est beaucoup plus compliqué, notamment quand c'est issu de l'agriculture, puisque les agriculteurs, il n'y en a pas qu'un. Et c'est très compliqué. Donc à un moment, l'État recule, ne fait rien, parce que c'est compliqué, on sait pas. Et certaines collectivités mettent en œuvre des traitements sur l'eau qui coûtent pas mal en énergie, hein, parce qu'il faut mettre de l'eau sous pression. Mais on va pas beaucoup plus loin. Et on en reparle régulièrement des scandales de ces polluants éternels. Et on a l'impression que ça n'avance jamais. Et on en est là aujourd'hui. En tout cas, le coût estimé est quand même énorme. Grosso modo, au niveau de l'Europe, en moyenne, ça serait 100 milliards par an dépensés si on voulait se dépolluer sur une dizaine d'années. 100 milliards par an, c'est la moitié du budget européen. Vous imaginez que personne n'a les moyens de mettre cet argent-là. Mais ne vous inquiétez pas, les industriels producteurs de PFAS continuent d'engranger des bénéfices.
Alors sur les PSAS, il y a un complément d'enquête ce soir qui passe sur France 2, cette émission reportage en général sur les sujets d'actu. Ce qui est marrant, c'est que son présentateur, et celui qui présente et dirige cette émission, Tristan Valek, a communiqué sur Blue Sky pour faire savoir que Tefal avait déjà émis un communiqué. Il le dit avec un peu le ton de l'humour, et de toute façon, bon, il est un peu habitué à ce que les multinationales répondent par avance avant la diffusion de son émission. C'est assez marrant, c'est-à-dire que tout de suite, on attaque avant même de savoir ce qui va être diffusé. Bon, après, on se doute bien que de toute façon, ils vont en prendre plein la gueule. Mais c'est marrant, voilà. Et bon, c'était juste pour dire. Alors, tu as fini ou je
finis ? Oui, c'est à toi.
Alors, on va parler des Outre-mer, et la semaine dernière, peut-être que vous avez lu cette enquête de Libération, une enquête approfondie sur les gros profits du groupe Bernard Ayot en Outre-mer, avec une enquête basée sur des documents internes au groupe, hein, divulgués par un cadre. Une enquête qui montre qu'en fait, globalement, le groupe Bernard Ayot surestime un peu les tarifs de ses produits et a une position quand même assez centrale sur la distribution de certains produits, dont les voitures, en Outre-mer. Alors, cet article de Libération a eu des répercussions, d'abord médiatiques, hein, ça a fait causer bien évidemment, et puis ça a donné des idées à certains et certaines, puisque quatre lanceurs d'alerte martiniquais ont porté plainte pour entente et abus de position imminente. Alors, il s'agit d'un dépôt de plainte contre X, de 5 pages, datée du 13 janvier. La plainte arque de problèmes de règles de concurrence. La plainte évoque l'existence d'ententes secrètes entre les principaux acteurs économiques en Outre-mer et parle donc d'abus de position dominante et de système oligopolistique. Je le cite. Il faut savoir qu'il y a déjà une procédure contre le groupe Bernard Ayot en cours, parce que cette plainte, elle est contre X, comme je vous ai dit. Donc, quand je vous dis qu'il y a déjà une procédure, je dis déjà. Parce qu'en fait, très clairement, cette plainte fait suite à cette enquête de Libération, le dépôt de plainte visant à faire un petit peu la lumière sur les pratiques des différents groupes, dont le groupe Bernard Ayot, sur la marchandisation et les tarifs pratiqués dans les territoires ultramarins. Alors, la plainte précédente vise, par contre, là, le groupe Bernard Ayot, devant le tribunal, donc c'est une plainte qui est déposée devant le tribunal de commerce pour non-publication des comptes, je rappelle, il y a une obligation légale, mais tout ça n'est pas si simple, bien évidemment. lui-même, Bernard Arnault, en 2023, devant la commission d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer, rappelait qu'en fait, c'était assez habituel que ces groupes qui font du pognon en Outre-mer ne déposent pas leur compte et ne racontent rien du tout. Pour tenter de quand même calmer le jeu, l'entreprise a publié en fin d'année dernière des comptes sociaux. Le truc, c'est que ça comprend pas vraiment l'intégralité des comptes consolidés sur la société mère. Donc, on ne sait pas exactement quels sont les bénéfices du machin. Et puis surtout, on a du mal à comprendre quelles sont les filiales du réseau du groupe Ayo. Et donc de comprendre quelle est l'importance de la toile d'araignée sur la distribution en Outre-mer du groupe Bernard Ayo. Donc il y a déjà cette plainte. Donc là, on a une plainte contre X qui arrive, qui va viser très sincèrement le groupe Bernard Ayo. De toute façon, il a déjà réagi par communiqué. Il faut dire que c'est le leader quand même de la grande distribution dans les Antilles, hein, tout simplement, c'est une place prépondérante dans la grande distribution et dans l'automobile, comme je vous le disais, mais c'est une industrie, c'est l'agriculture, c'est une position qui est de partout, qui est assez quand même, il y a un monopole, et c'est ça qui est mis en avant dans cette plainte, c'est de dire on a un problème de monopole, on a un problème de non-transparence et on a un problème de tarifs. Alors le travail de Libération a évidemment facilité la mise en avant des problématiques, même si ça fait bien longtemps qu'elles sont pointées du doigt, mais c'est vrai que à Libération, c'est Emmanuel Fenstein qui a fait cette enquête. Dans cet article, on a des chiffres un peu, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des marges nettes qui sont extrêmement importante, bien plus importante que dans l'Hexagone, mais que les arguments avancés sur les frais qui sont plus importants parce que tout vient d'ailleurs et qu'il faut tout transporter, ça suffit pas à expliquer pourquoi il y a des marges aussi importantes. Donc ça voudrait dire qu'il y a quand même aujourd'hui le groupe Bernard Arnault qui semblerait s'en mettre plein les poches sur le dos évidemment des Antillais. Alors donc je vous le disais, là on a un groupe qui est pas visé. Mais ça touche tous les acteurs de cette grande distribution dans les Antilles. Alors, je vous rappelle qu'il y a un mouvement hein, de la vie chère en Martinique et que donc cet article de Libération vient relancer une colère, bien évidemment, qui est bien présente. Hein. Et puis surtout, Libé met, on va dire, un poids supplémentaire sur le fait que on a une distribution en particulier alimentaire qui est aux mains de quelques groupes, et ce sont des groupes des béquets. Hein. Donc c'est pas chouette, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il n'y a pas une autonomie sur l'île hors des béquets. Donc ça veut dire qu'on a un système colonial qui se met en place dans cette économie et qui semble n'intéresser que très peu nos politiques. Il faut dire qu'en métropole, c'est loin, hein, tout ça, hein, les Antilles. Et puis que bon, finalement, est-ce que c'est si grave, hein, tant qu'il y a à bouffer? Sauf qu'il y a des gens qui bouffent pas. Donc, ce groupe aujourd'hui, Bernard Ayot, est donc pointé du doigt, mais comme ses petits camarades, hein, que ça soit donc sur les Antilles. Bon, on a beaucoup parlé de Mayotte, hein, là, avec évidemment la catastrophe. Mais voilà, on parle de la Martinique, hein, on parle de la Guyane, on parle de la Réunion. Tous ces endroits, loin de la métropole, sont finalement sous le joug de quelques entreprises qui détiennent un marché et qui semblent contrôler aussi les tarifs. Donc, on a ce groupe Bernard Ayot, on a le groupe Créo de Patrick Fable, on a le groupe Parfait, c'est Hyparfait là aussi, et puis c'est le groupe Gérard Huguet d'Espointe. Donc, on a ces quelques groupes-là qui détiennent un peu, qui détiennent et qui ont la main mise sur des importations et donc sur les tarifs que les gens eux en face d'eux. Alors il faut dire aussi qu'il y a eu pas mal de rachats, hein. Il y avait des filiales du groupe Casino sur les Antilles, à Mayotte, et donc ces rachats continuent à rendre un monopole sur la distribution et donc sur ces tarifs. Et puis c'est surtout qu'on a toujours le monopole des béquets, des blancs sur ces territoires. Donc il y a ces plaintes, elles sont là aussi pour amener peut-être un changement du modèle économique sur les territoires, dans les territoires ultramarins, et puis que peut-être c'est enfin des sanctions qui soient prises et qu'il y a des solutions qui soient amenées pour garantir une égalité économique au sein de la France, puisque effectivement on a des territoires aujourd'hui qui payent tout plus cher ces arguments que c'est loin, puis quand même faut amener les trucs et que tout il est plus compliqué. En même temps, on ne cherche pas non plus à amener de l'argent pour développer une économie locale, et en particulier dans l'agriculture, sur un certain nombre de ces territoires. Et puis, on aime bien faire venir les choses de la métropole plutôt que d'autres territoires qui, évidemment, feraient fonctionner des entreprises qui ne seraient plus françaises, ou en tout cas sur des multinationales françaises. Voilà, en tout cas, le groupe Bernard Ayot a répondu à l'article de Libération du 9 janvier, tout de suite le 10 janvier. Ça a été très très rapide. Et dans ce communiqué, on accuse Libération de vouloir déstabiliser le groupe. Parce que c'est bien convenu à Libération, si ça se trouve, il y a des agents de la Corée du Nord qui viennent pour déstabiliser les groupes français, qui font le mieux pour les Français et les Françaises. C'est écrit, il s'appuie sur nos détracteurs habituels et un ancien salarié qui nous dénigre et nous diffame dans un esprit de vengeance. Ces attaques instrumentalisent notre groupe, elles sont infondées et approximatives, sans considération pour nos salariés, nos clients et nos fournisseurs. Là aussi, j'aime bien quand on utilise les collaborateurs et les collaboratrices pour dire que c'est pas vrai tout ça, c'est tout faux. Vous pouvez le trouver, ce communiqué. En tout cas, ils sont choqués, outrés. Il y a le mot choqué qui est utilisé dans ce communiqué. Puisqu'on nous dit, nos premières pensées vont vers nos collaborateurs qui sont comme nous choqués par la teneur de cet article. Ben voilà. Écoute, on nous dit que c'est pas vrai, qu'il y a des frais et que les frais ça coûte cher. Et que les autres, c'est tous des menteurs. Et que, en tout cas, si tu veux pas ta bagnole, parce que c'est sur la bagnole, surtout que c'est pointé aussi du doigt, t'as qu'à prendre un vélo, globalement. Voilà. Je vous laisse aller relire l'article de Libé, je sais, il faut payer tout ça, mais bon, que voulez-vous.
Allez, on poursuit avec cette petite info tristounette. Un militant antifa lyonnais a été condamné pour outrage en lien avec un port d'un T-shirt, et oui, on parle coton. Donc c'est une affaire qui remonte au 4 juillet de l'année dernière. Une vingtaine de prévenus ont été jugés en comparution immédiate à Lyon pour leur participation présumée aux émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Vous savez qu'il a été dézingué par un policier et ça avait fait des réactions un petit peu partout en France. Donc lors de ce procès, en comparution immédiate, donc un militant antifa lyonnais est venu assister aux audiences. Il avait un t-shirt avec le logo Nike avec écrit en dessous la police. Bien sûr, on peut lire ça en disant nique la police, alors que c'est écrit Nike la police quand même. Mais bon, nique la police, c'est le but aussi du jeu. Mais ça a pas plu. Alors, il est venu aussi pour perturber le procès. Il a filmé l'audience avec ce t-shirt, enfin voilà. Il a été évacué du tribunal à l'époque et placé en garde à vue. Il était jugé en novembre dernier pour donc outrage et rébellion. Et on a eu aujourd'hui le résultat. Donc le militant a été condamné pour outrage et pas du tout pour rébellion. À 4 mois de prison avec sursis probatoire, 105 heures de travaux d'intérêt général. On te souhaite bon courage, gars. Un stage de citoyenneté à ses frais. Et il doit verser en outre 250 euros à chacun des 4 policiers des parties civiles pour préjudice moral. T'imagines, t'as un t-shirt avec le logo de Nike avec écrit « La police en dessous » et il y a un préjudice moral. Alors soit les flics sont faibles, mais fragiles, de là à avoir un logo de Nike écrit « La police en dessous » et d'un seul coup ils sont malades, ils font de la déprime, soit on se fout de notre gueule et que c'est un jugement politique. Vous analyserez ça comme vous voulez. En tout cas, on n'est pas loin du ridicule. Et pourtant, la peine est inférieure à celle requise par la procureure de la République, qui est le bras armé de l'État dans les procès, qui avait requis 6 mois de prison avec sursis. Donc voilà, c'est quand même triste de voir un militant condamné juste pour un t-shirt, alors que les flics, ils font plein de choses, ils tabassent, ils contrôlent au faciès, on laisse regarder les enquêtes sur le racisme dans la police, sans qu'ils soient jamais condamnés. Je vous parle même pas de ce qui s'est passé avant, parce que là on parle au départ d'un procès sur le jeune Naël qui se fait dézinguer par la police, des gens tués par la police, avec des policiers peu ou pas condamnés, il y en a beaucoup, on se rappelle de Maliko Sekin, on se rappelle du 17 octobre 61, où aucun flic ne sera jamais condamné pour avoir tué les 200 à 300 manifestants, je vous parle pas de l'arrestation des Juifs dans les années 40, où aucun flic n'a jamais été arrêté. Donc bref, on préfère arrêter et condamner des gens portant des t-shirts plutôt que d'arrêter des gens qui commettent des actions moralement condamnables quand même, parce que faire arrêter les Juifs ou tuer un mec parce qu'il est arabe, c'est quand même pas super moralement acceptable. Donc voilà, c'est triste, cette justice aux ordres de l'État. Elle l'est pas toujours, mais elle l'est parfois. Donc faites gaffe si vous avez un t-shirt avec un logo de Nike et écrit la police en dessous.
Alors, il aura fallu des jours pour qu'il accepte de se rendre. C'était un feuilleton à la Dallas. Je vous rappelle que ce président, Monsieur Youn, était suspendu, est suspendu par les députés. Hein, il est visé par une enquête pour rébellion. C'est quand même un crime, hein, qui est passible de la peine de mort en Corée du Sud. Il avait jusqu'à présent refusé de répondre aux convocations des enquêteurs. Et puis finalement, il a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux qu'il était soucieux d'éviter un bain de sang entre les forces de l'ordre venues l'arrêter et son service de sécurité présidentiel, le PSS dont je vous ai parlé la semaine dernière. Monsieur Youn a donc accepté hier de se rendre. Il s'est donc déplacé au siège du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités, ce qu'on appelle le CIO, c'est à Séoul. Il a été donc arrêté, placé en garde à vue et cela devrait déboucher sur sa mise en examen. Le conditionnel, bon, quand même, tout ça paraît assez clair. Ouais. On vous rappelle, hein, qu'il a déclaré une loi martiale, tout ça, ça sentait un peu le coup d'État, que c'était donc la faute, hein, des Nord-Coréens. Il dort donc en prison, il subit donc des interrogatoires. Ah, je vous rappelle qu'il y avait une première descente, hein, des flics qui avaient complètement foiré, mais on a des images complètement dingues, hein, de cette Corée du Sud où on a vu là donc hier une tentative de passer le mur d'enceinte donc de sa maison dans lequel il s'était réfugié avec des échelles, hein, donc on a vu les flics. Et puis il y a ces dizaines de cars. La Corée du Sud aime beaucoup utiliser les gros bus pour déplacer sa flicaille, hein, c'est un truc assez habituel. Donc on en avait plein de partout. D'ailleurs, ces fameux bus qu'on voit sur certaines manifestations renversé. On n'a pas ça chez nous.
Nous, on a des bus spécialisés, nous.
Ouais, mais nous, on n'a pas les mêmes comme ça. En tout cas, toutes ces images sont impressionnantes. Et puis, finalement, il a pris cette décision. Il faut dire qu'il y avait 4000 policiers quand même, hein, tout autour. Enfin, c'est, ouais. Mais c'est une affaire d'État extrêmement importante. C'est la première fois qu'un président sud-coréen est arrêté dans le cadre de son exercice. Madame Park, elle avait dû se barrer de sa présidence, mais je veux dire, ses soucis sont arrivés ensuite, réellement. Là, on a quand même un président en exercice, certes, qui est démis de ses fonctions.
Il est démis, mais il est encore en exercice.
Mais, je veux dire, là, il y a un petit flou, hein, ouais, aussi, hein, dans cette démocratie sud-coréenne. En tout cas, ça y est, ça met fin quand même à, hein, une grosse galère. Donc, il avait fait une message vidéo où il ne reconnaît toujours pas la légalité de ses enquêtes, mais que, bon, pour éviter donc les effusions de sang, le bain de sang, il fallait quand même qu'il se rende. Alors, pour l'instant, d'après ce qu'on en sait, le CIO a expliqué que M. Youn exerce son droit de garder le silence. Il a aussi refusé d'être filmé pendant son interrogatoire, ce qui est tout à fait son droit. Voilà, donc là, on a un mandat en cours. Un nouvel ordre devrait être envisagé pour prolonger cette durée, hein, donc de son incarcération. Il s'est donc expliqué sur Facebook, où il a expliqué qu'il y avait toujours la Corée du Nord qui allait attaquer la Corée du Sud et qu'il y avait des fraudes électorales et tout ça était à la cause de la Corée du Nord. Alors en plus, la Corée du Nord, là, elle envoie des machins sur la Corée du Sud. Non, elle envoie des petits missiles, là, donc effectivement, la Corée du Nord a en plus fait de la provocation. Bon, en tout cas, voilà, ça avance un petit peu. Il y a mardi, la Cour constitutionnelle a lancé très formellement la destitution de Monsieur Youn. Ça avance. Et puis, pour la Corée du Nord, sachez donc qu'il y aurait pour l'instant, pour ce qu'on en sait, c'est des informations transmises par la Corée du Sud qui relativisent beaucoup ce qu'avaient donné les renseignements ukrainiens. Il y aurait 300 soldats nord-coréens qui auraient été tués lors donc de ces affrontements avec l'armée et la résistance ukrainienne, donc des nord-coréens qui donc s'ajoutent aux soldats russes. C'est un nouveau partenariat donc qui a avait déjà été mis en avant ces dernières semaines. Ce qu'on sait, c'est que là, donc, c'est la Corée du Sud qui a envoyé des traducteurs et des traductrices sur place. Par contre, ce que fait l'Ukraine en montrant des vidéos de ces soldats, c'est contre les conventions de Genève. On n'utilise pas des prisonniers et des prisonnières. C'est interdit, donc c'est un peu pourri ce que peut faire pour l'instant.
Mais c'est pour montrer que c'est pour démontrer ce qui avait été dit ces dernières semaines, qu'il y a bien des Nord-Coréens qui viennent.
Oui, mais la Corée du Sud, en envoyant des traducteurs et des traductrices, aurait pu prouver que c'était bien des Nord-Coréens. Il n'y avait pas besoin de mettre en avant ces photos. On a trouvé aussi des carnets sur ces soldats qui expliquent qu'en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là, et qu'on les invite à se suicider plutôt qu'à être fait prisonnier. En tout cas, ça permet à M. Zelensky de dire, regardez, il y a une guerre internationale, puisqu'il y a des Nord-Coréens qui sont enclenchés, qui sont là avec les Russes, donc pourquoi finalement vous venez pas aussi. Et puis ça crée aussi toute une histoire pour dire que ça raconte aussi quelque chose en plus sur cette intervention nord-coréenne. Ça je pense qu'on y donnera suite prochainement.
Voilà, il va être 20h d'ici quelques secondes. Juste pour dire qu'on n'a pas parlé du cessez-le-feu à Gaza, mais c'est en cours et c'est pas ça commencerait que dans quelques jours et ça bombarde toujours, Israël en profite. Et David Lynch serait mort aussi aujourd'hui. Voilà, pour celles et ceux qui aiment bien les films de David Lynch, et vous n'en aurez pas de nouveau. Il est 20h, il est l'heure de la petite cuillère.
On se retrouve la semaine prochaine, bye bye.